France Inter, édition spéciale.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec beaucoup d'invités. Pour commencer, en ligne avec nous à Toulouse, Christophe Rouget, commandant de police chargé de communication au syndicat des cadres de sécurité intérieure, le syndicat des officiers de police. Bonjour.
Bonjour.
Alors face à de tels événements, j'ai envie de vous demander pour commencer comment vous-même avez réagi. Vous dites quoi face à de tels drames? Comment améliorer la sécurité des Français? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où a-t-on péché?
D'abord, aujourd'hui, tous les policiers sont dans le deuil, comme tous les Français, parce que des policiers ont été tués, d'autres grièvement blessés au Bataclan. Et cette salle, nous, les officiers, nous la connaissons bien, puisque c'est la salle où nous faisons nos vœux et où, fin janvier dernier, nous avions rendu un hommage aux victimes de Charlie. Mais les policiers aussi sont mobilisés sur tous les fronts, parce que depuis vendredi, c'est une course contre la montre pour interpeller tous les acteurs et tous les complices de ces crimes. Mais attention, les policiers en ont aussi assez des yaka-faucons qui viennent sur les plateaux pointer les failles des services de renseignement ou d'autres qui viennent faire une surenchère démagogue et des propositions les plus farfelues. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de dignité. Nous allons faire le maximum pour éviter ce type d'attentat à l'avenir. Mais regardez, l'État d'Israël qui a une armée suréquipée, qui a un service obligatoire de 3 ans, les services de renseignement les plus puissants et les plus efficaces du monde n'arrivent pas à éviter ces attentats. Donc je crois qu'il faut beaucoup de dignité et de responsabilité dans cette affaire.
Et pour vous, il n'y a pas de problème d'effectifs, de moyens?
Il y a toujours des problèmes et nous sommes les premiers à réfléchir à l'évolution des services. Je crois qu'un plan avait été mis en place par le président de la République récemment, puisqu'il avait reçu l'ensemble des syndicats de police. Il faut le mettre en application le plus rapidement possible et sans doute accélérer les choses au niveau des procédures qui soient simplifiées, au niveau des moyens qui doivent être alloués. Mais le risque zéro n'existe pas. Il y a un plan pour les armes qui a été mis en place, par exemple, vendredi. Il faut qu'il soit efficace. Ce plan, il aurait dû être pris il y a 15 ans, lorsque les armes commençaient à arriver des Balkans. On a réagi parfois trop tard. Il faut anticiper les choses et écouter les professionnels des services de police.
Christophe Rouget, vous n'aimez pas qu'on pointe les failles des services de renseignement. À la fois, l'un des kamikazes faisait l'objet d'un signalement pour radicalisation. Il avait ce qu'on appelle une fiche S. Il n'y a pas eu d'erreur des services de renseignement, c'est ça que vous nous dites?
La fiche S, et souvent les gens méconnaissent ce fonctionnement. C'est juste uniquement un moyen de collecter des informations par rapport à un individu qui présente un signal faible. On voit un individu qui s'est radicalisé. On va mettre une fiche S qui va permettre peut-être, de recueillir des informations sur cet individu lorsque notamment il va passer une frontière, lorsqu'il va prendre l'avion. Et donc, avec ces informations, on va pouvoir améliorer sa connaissance. Mais vous savez, il y a actuellement plus d'individus qui sont radicalisés en France que de policiers chargés du renseignement. Donc, on ne peut pas les surveiller 24 heures sur 24. Et dans aucun pays au monde, les radicalisés, quelle que soit leur religion, ne seront mis dans des camps ou non. Le but pour les services de renseignement, c'est d'essayer de détecter parmi cette masse d'individus radicalisés ceux qui peuvent un jour basculer dans le terrorisme. Et vous comprenez bien que c'est très compliqué.
Alors, est-ce que c'est, de votre point de vue, l'arsenal législatif qui doit être renforcé?
L'arsenal législatif a évolué considérablement ces dernières années. Je crois que le ministère de l'Intérieur, justement, dans les dernières propositions qui ont été faites, a donné les moyens juridiques aux services de renseignement et aux services judiciaires de pouvoir lutter avec efficacité. Il faut que tous les décrets soient pris pour que les lois sur le renseignement rentrent en application, mais il faut aussi surtout éviter que ces nouveaux décrets, que ces nouvelles lois n'alourdissent le travail des policiers. Actuellement, nous avons un gros problème, et le Premier ministre donc en a pris acte et a annoncé des mesures dans ce sens, c'est l'alourdissement des procédures, qu'elles soient administratives ou la procédure pénale. Il faut simplifier tout ça. Pourquoi? Pour gagner du temps, afin que les policiers puissent être présents davantage sur le terrain. Parce qu'on le voit bien, ils sont à bout de souffle. Vous savez, depuis le début de l'année, ils sont pris sur de nombreuses missions, de nombreuses priorités. Regardez, la semaine dernière, on a eu la fermeture des frontières qui a été annoncée pour la COP21, le plan pour les armes et ensuite les attentats. Donc les policiers sont fatigués. Il faudra penser à pouvoir leur permettre de reporter leur congé, à par exemple modifier leur compte épargne-temps, parce que nous avons besoin d'être présents sur le terrain en permanence et il faudra trouver des solutions pour cela.
Justement, sur la question des moyens, on disait déjà qu'avec Vigipirate, les policiers, les militaires étaient à bout de souffle, qu'on n'avait plus les moyens de faire plus, entre guillemets. Alors ça veut dire quoi? Comment on fait aujourd'hui?
Là, aujourd'hui, tous les repos des fonctionnaires de police ont été annulés. Tous les policiers vont sur le terrain pour améliorer la sécurisation des Français. Ils sont motivés pour cela, mais effectivement, dans le temps, c'est très compliqué à gérer. On ne peut pas en permanence dire à des hommes et à des femmes, voilà, vous ne pouvez pas prendre votre congé, voilà, vous devez être présent sur le terrain en permanence. On a des heures supplémentaires qui explosent. Et donc là, dans ce domaine-là, bien évidemment, il va falloir trouver des solutions et rapidement pour permettre aux policiers et aux forces de police de souffler. Mais sur le long terme, il faudra réfléchir à l'évolution des dispositifs Sentinelle et Vigipirate. Pourquoi ? Parce que ces dispositifs, ils étaient faits pour une menace qui était temporaire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette menace, elle est globale, permanente. Et il va falloir trouver de nouvelles dispositions pour pouvoir être efficace dans le temps.
Une question pour vous, Christophe Rouget, question de Sarah Guibaudot.
Sur les modes d'intervention des forces de l'ordre lors de tels attentats, notamment des unités d'intervention comme le RAID ou la BRI, est-ce qu'elles ne doivent pas un peu évoluer pour s'adapter à ce mode d'action, ces individus ou petites équipes qui frappent à un endroit et qui peuvent se déplacer très vite ?
C'est très largement anticipé depuis longtemps par ces groupes d'intervention. Mais ces groupes d'intervention ne peuvent être sollicités par les pouvoirs publics que dans certaines situations. Et ils ont travaillé depuis longtemps sur ces groupes. On le savait pertinemment que la menace venait d'individus qui venaient de l'extérieur, qui rentraient sur le territoire français et qui pouvaient être armés de Kalachnikov ou d'explosifs. Donc, évidemment, tous ces professionnels, et je tiens à les saluer, travaillent dans ce cadre-là. Mais il faut pouvoir faire venir ces forces d'intervention sur les lieux où se passe le drame. Et ça prend toujours un certain temps. Donc il faut aussi que l'ensemble des policiers soient armés correctement, puissent avoir des matériels pour se protéger à eux aussi, et éventuellement aussi faire évoluer la légitime défense pour que les policiers ne soient plus en danger.
Et justement, à propos de l'armement des policiers en dehors du temps de travail, comme le réclament certains de vos collègues, qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, ça peut être une mesure qui peut permettre, on l'a vu lors des interventions dans le Thalys, il est toujours intéressant pour les citoyens d'avoir des policiers qui, par exemple, utilisent les transports en commun et à ce titre ne paient pas les transports en commun, parce que lorsqu'on a des gens qui sont entraînés et habitués à gérer des situations de crise, c'est intéressant pour les citoyens. Il faut aussi éventuellement qu'ils puissent être armés, mais je crois qu'il faut faire attention, travailler dans la dignité, réfléchir tranquillement à toutes les mesures qui peuvent permettre d'être efficace. Souvent, lors de ces drames, nous avons des réactions du monde politique, nous avons des réactions émotionnelles. Et je crois que nous sommes des professionnels et que l'intérêt, c'est de mettre en place des mesures pragmatiques qui permettent sur le long terme d'être efficaces.
Christophe Rouget, malgré le manque de moyens que vous avez l'air de pointer, on a l'impression malgré tout que l'enquête, en tout cas de l'extérieur, on a cette impression-là que l'enquête progresse malgré tout très vite. Il y a déjà des arrestations, des gardes à vue. Finalement, c'est étonnant cette rapidité.
Non, vous avez beaucoup de policiers qui sont mobilisés aujourd'hui à la police judiciaire, à la DGSI, dans le cadre de cette enquête. On sait que c'est une course contre la montre. On sait qu'il y a des individus qui certainement ont pris la fuite. Donc il faut les interpeller, il faut arriver à localiser les complices, il faut récupérer toutes les armes. Donc c'est un travail avec beaucoup de motivation de la part des policiers. Mais il faut faire attention aussi parce que beaucoup de policiers nous disent attention aux scoops dans les médias. Il faut faire preuve de retenue, car toutes ces informations qui sont communiquées au fur et à mesure peuvent nuire à l'enquête. Et les Français, vous savez, n'attendent pas de savoir minute par minute ce qui se passe. Ils veulent être en sécurité. Donc je demande à ce que vraiment il y ait beaucoup de retenue, non seulement dans la communication des informations, mais aussi dans la communication d'images, de victimes, de blessés, qui peuvent engendrer finalement une publicité pour ces terroristes.
Sarah Guibaudot, une dernière question.
Oui, quel est l'état d'esprit de vos collègues, notamment dans les services de renseignement à la DGSI ? Parce que ce qui s'est produit vendredi soir, c'est exactement ce qu'ils redoutaient depuis des mois.
Oui, effectivement, puisque beaucoup de notes d'analyse mettaient en garde cette possibilité-là, c'est-à-dire cette tentative de Daesh de récupérer des individus qui étaient formés sur leur territoire en Syrie, sur les zones de combat, et ensuite qu'on faisait revenir à travers des pays frontaliers par une technique dite oblique. Donc on fait venir ces individus sur d'autres pays pour venir commettre un acte sur le sol national. Ça vraiment s'était pointé du doigt, mais c'est très difficile à détecter, puisqu'on voit bien, on passe d'un pays à l'autre, on utilise des passeports, et là par exemple il faut être très méfiant, parce que c'est une stratégie de Daesh d'utiliser des passeports de personnes qui sont mortes sur les zones de combat ou qui sont des faux passeports pour pouvoir troubler et ralentir les enquêtes. Donc oui, malheureusement, c'est ce qui était prévisible, mais on sait que d'autres attentats auront lieu et il faut que l'ensemble des citoyens, l'ensemble des pouvoirs publics se mobilisent parce que la police ne pourra pas tout faire pour qu'on puisse lutter contre les phénomènes notamment de radicalisation.
Christophe Rouget, commandant de police, membre du syndicat des officiers de police, merci d'avoir été en ligne avec nous. Dans un instant, nous serons avec le juge antiterroriste Marc Trévidic, 12h30 sur France Inter.